Vivre FM podcast.
11h midi sur Vivre FM,
la vie des entreprises.
Annelise Farcoa.
La FAGER, Fédération des associations gestionnaires des établissements de réadaptation pour handicapés, existe depuis de plus de 60 ans. Ses objectifs principaux sont la fédération des associations, organismes, établissements ou services ayant pour objet l'adaptation et l'intégration des personnes handicapées et animation de ce réseau en facilitant les échanges de bonnes pratiques et en coordonnant leurs réflexions. Ce matin, dans la vie des entreprises, je reçois Isabelle Merian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la FAGER, Philippe Guillermin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous-même administrateur de la FAGER et directeur d'un établissement en Touraine avec un CRP, un CPO et une UEROS. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin pour nous détailler les activités de la FAGER, les actions que vous avez récemment mises en place concernant l'orientation, la formation et l'insertion des personnes handicapées en défendant leurs intérêts dans les évolutions politiques et législatives. Bonne matinée à tous.
La vie des entreprises jusqu'à midi sur Vivre FM.
Bienvenue dans la vie des entreprises. Nous sommes ensemble pendant une heure dans cette émission qui, vous le savez, est consacrée à l'emploi des personnes en situation de handicap. Je reçois ce matin Isabelle Merian, directrice de la FAGER, et Philippe Guillermin, administrateur de la FAGER et directeur d'un établissement en Touraine avec un CRP, un CPO et une UEROS. Vous nous expliquerez dans la suite de l'émission ce que sont tous ces sigles, parce que c'est vrai que dans le milieu du handicap, on a beaucoup de sigles, mais on ne sait pas forcément à quoi tout correspond. Alors vous êtes avec nous pour parler précisément de l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans le monde du travail. Et comment faire pour faire en sorte que les personnes qui sont obligées de se réinsérer professionnellement puissent avoir des formations et continuer à s'épanouir dans le monde professionnel. Alors, Isabelle Merian, quelles sont les activités de la FAGER?
Alors, la FAGER, comme vous le disiez tout à l'heure, a été créée il y a 70 ans, dont juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'idée était de regrouper toutes les initiatives effectivement qui étaient prises dans le domaine de l'emploi et de la formation. Et aujourd'hui, c'est une fédération qui regroupe 150 établissements et services sur tout le territoire, y compris un petit peu aux Antilles, mais sinon sur tout le territoire métropolitain, des établissements qui font de l'évaluation, de l'orientation, de la formation et de l'accompagnement à l'emploi pour travailleurs handicapés.
Alors effectivement, parce que vous l'avez dit, c'était des personnes qui revenaient de la guerre et qui ne pouvaient plus travailler, reprendre leur emploi initial. Et donc c'est pour ça que on leur a proposé des formations pour trouver un autre emploi.
Alors effectivement, la FAGER a été créée après la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, les premiers établissements ont été créés après la Première Guerre mondiale. Et effectivement, à l'époque, il y avait 3 millions de blessés et ils étaient jeunes hommes de 20 ans, en gros. Et l'idée, c'était de se dire que c'était peut-être intelligent de leur proposer une reconversion dans un métier compatible. Donc, c'est venu effectivement initialement pour les anciens combattants et les victimes de guerre. Et ça a été étendu ensuite, un peu avant la Seconde Guerre mondiale, aux accidentés du travail et aux gens qui avaient des maladies professionnelles. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale, au moment de la création de l'assurance maladie, que ça a été étendu beaucoup plus largement à tous. Et que avec la création de l'assurance maladie, c'est elle qui finance ce dispositif. Mais petit à petit, au fil du temps et tout au fil du 20e siècle, ça a été complètement étendu. Et aujourd'hui, le dispositif est ouvert à l'ensemble des personnes reconnues travailleurs handicapés. Alors ça aussi, c'est un sigle. On parle quelquefois de la RQTH, la reconnaissance de travailleurs handicapés. Mais ces personnes, ça peut être... comme elles sont reconnues travailleurs handicapées, elles ne sont pas nées avec un handicap. Elles ont eu un jour dans leur vie un accident, une maladie. Ça pourrait être les auditeurs qui nous écoutent, ça peut arriver à n'importe qui. Mais cet accident, cette maladie a fait que le médecin du travail les a ensuite déclarés inaptes au poste. Heureusement, c'est pas le cas dans tous les accidents de maladie. Et du fait qu'ils ont une inaptitude au poste, ils sont obligés d'arrêter de travailler, en tout cas sur le poste sur lequel ils travaillaient habituellement. Mais ils ont le droit à une reconversion dans un métier qui va être compatible avec leur état de santé. Donc c'est à quoi ce dispositif, il est complètement ouvert pour tout un chacun qui se trouverait avoir un handicap autour de sa vie, au cours de sa vie. Souvent quand on pense handicap, quelquefois, enfin on pense à plein de choses, mais on pense quelquefois à des handicaps très lourds ou à des handicaps de naissance. Là c'est acquis et donc ça concerne des personnes qui se vivent pas forcément comme handicapées, qui n'auraient pas idée d'aller se faire reconnaître travailleur handicapé.
Donc effectivement, au départ, la FAGER, c'était essentiellement pour des personnes qui avaient des handicaps physiques. Et là, vous avez élargi, en fait, à tout type de handicap. Ça veut dire que effectivement, une personne qui a un burn-out, qui a une maladie comme un cancer, peut bénéficier de formation de la part de la FAGER.
On peut assez facilement, oui. Pardon, on peut assez facilement faire un portrait robot des personnes que l'on accueille. Hein. Majoritairement, c'est un homme. 60-40% à peu près, 60% hommes, 40% femmes. Pourquoi? On ne sait pas bien forcément l'expliquer. Certainement que les hommes s'envisagent davantage dans une reconversion professionnelle que les femmes. 60% donc hommes, 40% femmes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes renoncent à une carrière professionnelle?
Ouais, on peut penser effectivement que devant le handicap, devant la maladie qui arrive, la question de du retour à l'emploi se pose différemment pour les hommes que pour les femmes. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication, qui est en lien, c'est-à-dire que là, effectivement, les femmes vont davantage rester, ou en tout cas s'occuper davantage de l'environnement familial, que les hommes qui vont s'engager dans un parcours de reconversion, quitte à partir ou accéder à une mobilité plus facilement que les femmes. Bon, ça, c'est des explications. En tout cas, c'est une réalité depuis de nombreuses années. On est sur cette proportion-là. Moyenne d'âge, autour de la quarantaine. Alors là, on va retrouver énormément.
C'est plutôt jeune.
C'est plutôt jeune. Alors on va retrouver énormément de personnes du bâtiment, par exemple, hein, avec des problèmes orthopédiques, rachidiens en tout cas, qui arrivent et donc qui se retrouvent face à une inaptitude professionnelle, hein, donc qui ont besoin de pouvoir reconstruire un nouveau projet. Même si, alors moyenne d'âge 40 ans, et on a deux extrêmes qui augmentent, les jeunes, plutôt sur des déficiences intellectuelles. Donc des jeunes qui ont eu, on va dire, une scolarité inclusive, vous voyez, qui ont finalement, depuis quelques années, quand même, l'éducation nationale a, heureusement, accueille de plus en plus de jeunes en situation de handicap. Et donc, arrivé à l'âge adulte, la question de l'insertion professionnelle se pose, ou se repose, en tout cas pour un certain nombre, et on voit arriver ces jeunes dans nos établissements. Et puis, alors, l'autre extrême, une augmentation également chez les plus âgés, alors là, qui s'explique par l'allongement de la vie professionnelle,
hein,
la durée du travail. Là où, il y a quelques années, on disait qu'après 45 ans, pas de réadaptation professionnelle. Aujourd'hui, on voit arriver en orientation et en formation des personnes autour de 50, 55 ans, voire plus, parce qu'on a des personnes qui n'ont pas forcément leur totalité de trimestre et qui ont besoin encore de travailler pendant plusieurs années. Voilà pour ce qui touche l'âge. Et puis après, au niveau des pathologies, puisqu'on parlait effectivement là où hier, on était plutôt majoritairement sur des problèmes orthopédiques, rachidiens, physiques, eh bien aujourd'hui, ça représente 50% du public accueilli. Et dans les 50% restants, on va retrouver quatre grandes catégories de public. L'handicap psychique, la déficience intellectuelle, tous les problèmes neurologiques, et puis après, tous les problèmes de système. Alors, on va retrouver des allergies, on va retrouver des post-cancers, avec des personnes qui peuvent plus retravailler suite à la maladie. Voilà. Donc, ils représentent 50% haut de la population qu'on accueille. Donc, vous voyez, il n'y a pas un public accueilli en réadaptation professionnelle. Il n'y a pas une seule origine du handicap, parce que vous pouvez avoir l'accident du travail, la maladie professionnelle ou la maladie tout court, voire même l'handicap de naissance.
Alors, ça, c'est le boulot de la FAGER d'aider ces personnes à se reconvertir, à trouver une nouvelle voie. Est-ce que c'est possible aussi quand on a un accident de travail, quand on a une maladie qui nous tombe dessus, quand on se rend compte qu'on ne peut plus assurer son travail, est-ce que c'est aussi le boulot de la FAGER d'aider à faire le deuil d'un boulot peut-être qu'on aimait bien?
Ah ben c'est là.
C'est le quotidien.
C'est le quotidien. C'est un des grands objectifs du travail d'accompagnement que l'on opère. C'est difficile. Hein. On se met dans la peau de quelqu'un qui, du jour au lendemain, là, on n'est pas dans un choix.
Moi, effectivement, vous parliez de personnes qui travaillent dans le bâtiment. Moi, j'aimais bien ça. J'étais peintre en bâtiment. J'aimais bien ça. Je ne peux plus faire ça. Qu'est-ce que je peux faire maintenant?
J'étais souvent au top de ma profession. C'est-à-dire, j'étais reconnu avec ma capacité professionnelle. Et d'un seul coup.
Et je suis jeune, j'ai 40 ans.
Effectivement, ça, dans le public accueilli dans les CRP, on a tout à fait des profils de gens qui adoraient leur boulot, qui étaient très bien et qui n'ont pas du tout envie de changer. Par exemple, l'exemple que vous donnez du bâtiment. Tout l'enjeu, c'est de dire, s'il y a une inaptitude à un poste, mais on peut peut-être rester dans le bâtiment. Quelqu'un qui était un ancien du bâtiment, vous allez lui proposer comptable. Au début, il va dire rien du tout.
Au secours.
Si vous dites comptable dans le bâtiment, et eh ben déjà, quelquefois ça se discute. Ça veut pas dire. Enfin, tout l'enjeu quand même, c'est de travailler un projet. Mais c'est pour dire que voilà, il y a des profils différents et on a aussi des profils. C'est pas forcément majoritaire de gens pour qui c'est la première fois que se pose la question qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce qu'ils ont toujours été sur des lignes qui leur plaisaient pas forcément. Et là, l'accident ou la maladie, on leur souhaite pas. mais de fait, il aurait tombé dessus, et pour la première fois, et ils vont quelquefois découvrir, au contraire, quelque chose qui les intéresse. C'est pas forcément la majorité, mais il y a vraiment, c'est des situations de vie, parce que c'est la durée, ça se travaille dans la durée. D'un coup, ce qui leur tombe, c'est inapte au poste, et après, qu'est-ce que je vais faire? C'est tout un champ, enfin, qui, et notamment, c'est pour ça qu'on pense que toute la phase de l'orientation est une phase extrêmement importante. La formation, c'est pas rien. Mais une fois qu'on est en formation, pour un peu, ça veut dire qu'on a déjà, si vous faites une formation d'horticulteur, vous y avez un peu réfléchi avant, enfin on peut imaginer, ou d'informaticien, ou d'électronicien, mais pas toujours. Et on insiste pour qu'avant de se lancer dans une formation, on travaille le projet.
Alors, je suis sûre que vous avez des belles histoires à nous raconter, de belles reconversions professionnelles, et ça, vous allez nous en parler dans la suite de l'émission. Mais par exemple, effectivement, si on parle de quelqu'un, si on prend toujours notre exemple de personne qui travaille dans le bâtiment et qui s'est jamais posé de questions depuis 10, 15 ans, quelque chose comme ça, est-ce que peut-être en discutant avec lui, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, il a toujours eu envie d'être horticulteur, de vendre des fleurs, de devenir pâtissier, et c'est tout à fait possible de lui faire une formation comme ça.
Oui,
les rêves sont possibles.
Comment dire ? Voilà, c'est ça. Les rêves, c'est possible, et on travaille là-dessus. La première chose qu'on demande aux personnes lorsqu'elles arrivent dans un stage de préorientation, c'est ça fait partie de ça. C'est à quoi avez-vous aussi rêvé à un moment donné ? Vous avez rêvé de faire de quoi ? Enfin, et puis, chaque histoire est singulière. On ne peut pas généraliser en disant ça va mettre plus ou moins de temps. Etc. Donc, le temps de la construction, le temps du projet est différent suivant les personnes. Ça, il faut qu'on l'accepte. D'ailleurs, ça fait partie d'une des évolutions de notre dispositif. On souhaite se donner aujourd'hui davantage de temps pour permettre aux personnes d'élaborer un nouveau projet professionnel, et notamment à cause de ce problème de temps pour travailler sur le deuil, sur le passé. C'est-à-dire, ce temps-là, il est nécessaire. Il peut mettre plus ou moins de temps suivant les personnes, mais tous sont confrontés à cette situation-là. J'ai en tête l'histoire d'un mécanicien. Là, c'était pas un maçon, c'était pas quelqu'un du bâtiment, mais un mécanicien qui faisait du custom automobile. 43 ans, 44 ans. Et il était au top. C'est-à-dire, il était capable de vous refaire un environnement d'un véhicule de manière extraordinaire. Et du jour au lendemain, il se retrouve avec une allergie avec un des produits les plus utilisés dans le custom. Avec des poussées, effectivement, de maladies de peau. Etc. Donc, inaptitude professionnelle, ça c'est le coup de couteau, hein, le médecin qui vous dit non, vous n'allez pas pouvoir continuer cette profession-là, il faut savoir faire autre chose. On a travaillé avec lui sur justement tout ce qui pouvait être métier artistique dérivé. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait une formation de maroquinier. Alors, voyez, on n'est plus dans le custom automobile, mais de maroquinier. Donc, il réalise en tout cas un certain nombre d'objets à son compte, puisqu'il a créé lui-même son entreprise, donc pour créer des objets. Donc, vous voyez, il y a des choses transférables. Mais le temps nécessaire pour passer du custom automobile à la maroquinerie, c'est plusieurs mois, voire pour cette personne-là, plus de 18 mois d'élaboration de projet. Parce qu'au départ, il n'était pas question d'envisager autre chose que ce qu'il savait faire.
On fait une petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Jusqu'à midi sur Vivre FM, la vie des entreprises, Alice Farcoa.
Dans quelques minutes, vous retrouverez votre nouvelle rubrique, les 3 minutes pour l'emploi. Mais tout de suite, nous sommes dans la deuxième partie de la vie des entreprises, toujours avec Isabelle Merian, directrice de la Fagère, et Philippe Guillemin, administrateur de la Fagère et directeur d'un établissement en Touraine avec un CRP, un CPO et une UERO. Avant de continuer à parler effectivement des activités de la Fagère, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, Philippe, sur ce que c'est qu'un CRP, un CPO et une UERO?
Alors, un centre de préorientation, c'est le point de départ, on va dire, de l'accompagnement des personnes vers un nouveau projet professionnel. On accueille des personnes pendant des durées variables, hein, puisque chaque projet est singulier, entre 8 à 12 semaines. Et pendant cette période-là, les personnes sont accompagnées par des professionnels, une équipe pluridisciplinaire, pour construire un nouveau projet professionnel.
Donc ce sont des personnes qui sont en reconversion professionnelle, quelle que soit leur problématique.
Sur la préorientation, quelle que soit leur problématique.
Voilà, qui ont eu un accident, qui ont eu une maladie, qui ne peuvent plus assurer leur poste.
Ils ont été considérés, ou ils sont en inaptitude professionnelle. La MDPH les a reconnus travailleurs handicapés.
La Maison départementale des personnes handicapées.
Tout à fait. Les a reconnus travailleurs handicapés, ça c'est une obligation. Et la MDPH doit avoir validé l'orientation vers le centre de préorientation. C'est-à-dire la porte d'entrée quel que soit l'établissement dont on va parler d'ailleurs, préorientation, CRP ou Euros, la porte d'entrée, c'est la MDPH. La personne doit s'adresser à la MDPH et c'est elle qui va orienter, à partir du projet personnalisé, c'est elle qui va orienter vers l'établissement. Donc, préorientation, 8-12 semaines, on travaille sur un nouveau projet professionnel. Sur les CRP, là, on est dans l'étape d'après. Pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement, on va dire d'un accompagnement pendant leur formation. Là, on est sur... alors, Isabelle Marion expliquera tout à l'heure l'ensemble de l'offre nationale. Mais là, on dispense des formations avec un accompagnement médico-psychosocial. Toutes les personnes en situation de handicap n'ont pas besoin d'un accompagnement de type CRP. Ceux qui sont plus fragiles ou qui cumulent des handicaps, ou le handicap est lourd, là vont avoir besoin d'un accompagnement médico-psychosocial pendant tout leur parcours.
Ou comme on le disait dans la première partie, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire le deuil de leur métier.
Tout à fait, ça fait partie aussi des éléments qui justifient, un élément qui va justifier pour la MDPH le besoin d'un dispositif accompagné.
D'accord.
L'Euros, ça s'adresse à un public particulier. Contrairement aux deux autres établissements, là, on s'adresse à des personnes cérébro-lésées, avec une lésion cérébrale acquise, soit à travers un AVC, soit à travers un traumatisme crânien. Des personnes dont la phase de soins est terminée, qui sont retournées à domicile, mais pour lesquelles il va y avoir besoin d'évaluer leurs capacités résiduelles et de réentraîner les capacités restantes. Par exemple, sur la vie autonome, la vie sociale ou la vie professionnelle. Par exemple, ça peut être réentraîner, après un traumatisme crânien, des personnes à refaire la cuisine, à aller faire ses courses. On pourra en parler tout à l'heure. On est sur un traumatisme très particulier qui laisse des séquelles très spécifiques et qui nécessite forcément un accompagnement très adapté.
Mais ce sont des personnes qui peuvent quand même envisager de reprendre un travail ?
Non, pas tous. 20% des personnes accueillies en Euros peuvent envisager un retour à la vie professionnelle. Par contre, le reste du... Là, on travaille davantage, si vous voulez, l'action des Euros, sans mettre de côté l'aspect professionnel, est davantage centrée sur l'autonomie résidentielle, arriver à vivre seul en appartement ou retrouver une vie en famille, par exemple, donc, et la vie sociale. Vous voyez, on travaille sur ces trois domaines-là en Euros. Hein. Mais donc, public particulier, évaluation et réentraînement pour... améliorer, hein, on est vraiment là, parce que là, on est vraiment sur des situations qui ne peuvent plus évoluer en mieux, enfin, ou très très peu. Donc on est vraiment à prendre conscience, aider la personne à prendre conscience de ce qui lui reste comme capacité résiduelle et arriver à compenser autour de ses capacités. Je vais prendre un exemple, par exemple, pour faire à manger, eh bien, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de mémoire chez certains cérébro-lésés, et donc on va les aider à faire des petites fiches dans la cuisine pour leur rappeler, les petits post-it, pour rappeler, attention, là, n'oubliez pas de fermer l'électricité. On est dans quelque chose de très normatif, mais qui va aider la personne à mieux vivre après chez elle en autonomie.
Alors, si on part vraiment sur la reconversion professionnelle des personnes qui ne peuvent plus assurer leur travail, c'est plutôt donc les CRP et les CPO, comme vous l'avez dit. Est-ce que ça concerne tout type de métier ou est-ce que vous êtes vraiment spécialisé sur certaines activités professionnelles, Isabelle Merian, peut-être?
Alors, l'idée, au contraire, c'est tout type de métier. L'idée, c'est tout type de métier. Au niveau du réseau Fagère, on fédère 150 établissements et services, et au niveau des CRP, des centres de reconversion professionnelle et des écoles de l'ONAC, ils proposent à eux tous à peu près 200 formations dans 14 secteurs d'activité. Mmh. Et des secteurs complètement variés, ça peut être aussi bien du secrétariat, de l'informatique, de l'électronique, de l'artisanat, de l'hôtellerie-restauration. C'est très varié, et on communique souvent justement sur les métiers sur lesquels on forme, parce que quelquefois, quand on parle de handicap, on aurait tendance, quand on connaît pas bien, à mettre les gens dans des cases, enfin, comme un peu à chaque fois. Et alors le sourd, on va le mettre dans un métier qui fait du bruit, en se disant, sont des clichés complètement stupides, mais on a entendu des choses pareilles.
Et alors, les aveugles, on va lui faire faire de la kinésithérapie.
Voilà. Alors, un aveugle a tout à fait le droit d'être kiné, mais il a aussi le droit de faire un métier qui est pas entre guillemets un métier d'aveugle. Enfin bon. Et l'idée, c'est que chaque cas est singulier et on va travailler sur chaque situation. Donc les formations, c'est très diversifié et les secteurs d'activité, c'est très diversifié, parce que une personne handicapée ne peut pas tout faire. Elle a été mise inapte au poste, donc elle sait bien qu'elle peut pas tout faire, mais elle ne peut pas ne rien faire. Comme un valide ne peut pas tout faire. Il y a des gens, si vous leur demandez de parler anglais, ça va être très compliqué pour eux. Alors je veux dire, voilà, c'est variable. En France, on connaît. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de travailler les capacités et de repérer ce que peut faire la personne. Et comme disait Philippe, le secteur CRP, ces 200 formations dans 14 secteurs. On ne fait pas tout. Alors, c'est quand même principalement des formations sur des niveaux CAP et Bac Pro. Donc, effectivement, il y a certaines entreprises qui recrutent des ingénieurs. On leur dit, à ce moment-là, c'est pas principalement avec la Fagère qu'ils vont travailler. On est en reconversion souvent de gens qui étaient sur des métiers manuels donc on reconvertit dans d'autres métiers compatibles. Donc, c'est complètement ouvert. Mais en même temps, comme toute formation, il y a des prérequis. Pour une formation en compta, il y a des prérequis en maths. Alors, ça me fait dire que les CRP ont ces formations qualifiantes qui aboutissent à un titre du ministère du Travail ou de l'Éducation nationale. Ça veut dire qu'à la fin, les personnes, elles ont exactement les mêmes compétences que tout un chacun avec leur titre. Mais pour autant, il y a aussi toute une partie qu'on appelle les formations préparatoires, parce que souvent, les gens ont travaillé, mais n'ont pas été à l'école depuis très longtemps, n'ont pas tous un bon souvenir de la scolarité, et quelquefois, il faut une période de remise à niveau avant d'entrer directement dans une formation qualifiante. Et ça, dans l'ensemble du réseau, les formations préparatoires, il y a l'aspect mise à niveau, mais tout l'aspect aussi de se remettre en formation pour des gens dont c'est pas l'habitude de demander des formations tous les ans.
Alors, on part vers notre 3 minutes pour l'emploi, notre nouvel espace coaching, et je vous demanderai de réagir juste après. Tout de suite. Véronique de Boissy-Saint-Léger nous demande sur notre page Facebook à qui il faut s'adresser pour commencer un bilan de compétences lorsqu'on est en poste. Elena Abdoun-Berdon, vous êtes consultante en accompagnement professionnel et vous êtes coach. Est-ce que vous pouvez lui répondre?
Alors, il y a plusieurs pistes. On peut déjà voir sa DRH en fonction des rapports que l'on a avec sa hiérarchie, son entreprise et sa DRH, qui, elle, aura des réponses sur comment guider un collaborateur qui veut faire un bilan. Je mettrai juste une petite réserve, c'est que lorsque l'on est en poste, récemment j'ai accompagné en bilan une femme qui était amenée à évoluer dans son entreprise et qui a souhaité faire un bilan parce que d'un seul coup, ça l'a confrontée à une évolution professionnelle alors qu'elle est ingénieure, donc j'allais dire elle était dans un ronronnement actif quand même. Mais
du coup, ça l'a stressée un peu.
Voilà, ça l'a stressée et elle s'est confrontée un peu à un petit manque de confiance en elle parce que demain elle va manager, parce que demain ses responsabilités vont grandir, et donc elle a fait en accord avec sa direction un bilan de compétences pour vraiment se sentir légitime, elle, par rapport à la proposition qu'ils lui ont faite et qui suit son cours et où tout va très très bien.
Et du coup, là, effectivement, l'employeur ne pose aucun problème dans ces cas-là.
Absolument. Par contre, lorsque l'on fait un bilan de compétences de sa propre initiative, il arrive que l'on soit vu un petit peu comme quelqu'un qui pourrait avoir envie de partir, qui n'est pas prêt forcément à s'investir sur le long terme dans l'entreprise. Et ça peut être mal perçu, surtout si les personnes sont juste au courant et sont pas forcément au fait d'avoir échangé avec vous. Donc, la DRH, il faut vraiment la contacter si on est vraiment serein et s'il n'y a pas de souci d'être pris comme quelqu'un susceptible de partir. Par contre, sinon, vous pouvez téléphoner aux organismes. Selon les métiers, il y a plusieurs organismes, mais le plus connu est celui qui vous renseignera. Quoi qu'il arrive, c'est le Fonds GESIF. Vous lui donnez le nom, le numéro de SIRET de l'entreprise, il vous dira si la société dépend d'eux ou pas. Et à ce moment-là, l'organisme peut même vous transmettre des noms de cabinets qui sont soit dans votre région professionnelle, soit dans votre région d'habitation.
Alors, je ne sais pas quelle est la situation de Véronique, effectivement, mais imaginons qu'elle ait envie, justement, de quitter cette entreprise. Il faut essayer d'éviter, du coup, de le dire à son employeur et peut-être faire son bilan de compétences en dehors de ses heures de travail.
Absolument. On a énormément de bilans qu'on accompagne en dehors. Véronique, c'est vrai que je vous inviterais vraiment à préserver votre situation dans l'entreprise parce que ça va vous permettre de réfléchir à votre rythme et de prendre vos décisions, mais à votre rythme et suivant vos impératifs à vous et de pas vous sentir poussé par rapport à une hiérarchie ou à une entreprise qui pourrait peut-être mettre une pression.
Merci beaucoup, Elena.
Merci.
Isabelle Mérian, Philippe Guillemin, vous accueillez très régulièrement des personnes qui sont justement en situation de reconversion professionnelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez proposer à un bilan de compétences?
Le bilan de compétences, c'est, on va dire, un élément qui fait partie du travail de la préorientation. Mais ça m'amène aussi, cette question du bilan de compétences en cours d'emploi, m'amène aussi à amener une information à laquelle je suis assez attentif. C'est-à-dire que peu de gens connaissent la possibilité d'être accueillis en préorientation ou en formation de réadaptation professionnelle avant le licenciement pour inaptitude. On est trop témoin de situations d'impact du licenciement chez les personnes. Il y a la maladie, le handicap, l'inaptitude et en plus souvent derrière un licenciement. Or, peu de gens connaissent la possibilité, au moment où la reconnaissance de travail, au moment où l'inaptitude et annoncée par le médecin du travail, il y a possibilité d'engager un parcours de reconversion professionnelle avant le licenciement. Il suffit que l'employeur l'accepte. Beaucoup d'employeurs l'acceptent parce que ça leur évite d'entrer dans des procédures complexes, et notamment une procédure de licenciement. Et ça, ça permet d'engager un processus de reconversion sans avoir à connaître la rupture que peut représenter un licenciement. Et une fois la reconversion terminée, la personne a le choix soit de retourner dans l'entreprise si un poste est possible au regard de la formation faite, ou alors de quitter l'entreprise et d'aller ailleurs. Ça évite, si vous voulez, un élément complémentaire de blessure et de rupture pour la personne.
Merci. On fait une nouvelle pause et on se retrouve juste après pour continuer à parler des activités de la FAGER. À tout de suite.
La vie des entreprises, jusqu'à midi sur Vivre FM, Alice Farcoa.
Troisième partie de la vie des entreprises, nous sommes toujours avec Isabelle Mérian, directrice de la FAGER, et Philippe Guillemin, administrateur de la FAGER et directeur d'un établissement en Touraine avec un CRP, un CPO et une UEROS. C'est comme ça qu'on dit, une UEROS?
C'est ça.
Alors, vous nous avez expliqué effectivement que le principal objectif de la FAGER, c'est de permettre aux personnes qui sont en reconversion professionnelle à la suite d'un handicap, d'une maladie, d'un accident de la vie, de faire des formations, de se poser un petit peu, c'est ça? Vous les accueillez, ces personnes-là, en leur posant des questions sur ce qu'ils ont envie de faire, Philippe?
Oui, c'est... Si vous voulez, je le disais tout à l'heure, chaque histoire est singulière, mais chacun a un paquet. Hein, il y a la compétence professionnelle, mais il y a la vie, tout ce qu'elle a amené. Et donc l'enjeu, c'est de rouvrir des possibles à partir des envies. Il y en a toujours des envies, elles peuvent être cachées. La douleur peut des fois...
Ou peut-être qu'on n'ose pas aussi quelquefois se dire, est-ce que je suis capable de faire ça?
Vous savez, voilà. c'est lourd, hein. Les personnes reçoivent un sacré coup lorsqu'elles apprennent effectivement le handicap et l'inaptitude. Mais il y a toujours au fond quelque chose qui permet de retravailler. Il faut du temps, il faut des professionnels qui aillent chercher ces éléments-là, redynamiser les personnes à partir de leurs atouts. Les premières questions qu'on pose, c'est certes vous avez eu un métier, qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait à côté? Vous avez un hobby, vous avez une passion,
vous êtes impliqué dans une association.
Voilà, et donc à partir de là, on peut travailler. Moi, j'ai des stagiaires qui sont devenus formateurs parce qu'ils avaient été bénévoles dans une association. Et au départ, ils pensaient pas du tout à cette perspective-là. Vous voyez, donc il faut aller chercher, et donc c'est notre rôle, c'est d'aller chercher ce qui est un peu masqué au départ. C'est vrai que souvent, quand ils arrivent, c'est un peu lourd. Parce que on sait pas où on est un peu on sort de soins,
on est dévalorisé.
Voilà, dévalorisé, et donc faut remobiliser, et donc l'objet de la préorientation essentiellement c'est de retravailler sur cette confiance, hein, retravailler sur la confiance en soi. Ça c'est l'élément moteur qui va permettre de travailler après sur un projet.
Alors Isabelle Mérian, parlez-nous de cette préorientation justement.
Juste un mot quand même sur la question de la confiance en soi, c'est ce qui ressort, y compris, alors c'est le travail de la préorientation, mais aussi en formation professionnelle. On avait fait une enquête il y a quelques années auprès des stagiaires sur qu'est-ce qu'ils retenaient de leur formation en CRP, et on s'attendait à ce qu'ils répondent que les formateurs les avaient bien qualifiés dans des bons domaines, c'était exact, ils avaient retrouvé du travail. Et en fait, la chose qui est venue en premier, retrouver la confiance en soi. Et c'était y compris en formation. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important. Pour revenir à votre question sur la préorientation, alors la préorientation est très intéressante, on vient d'en parler, elle est quelquefois dure, hein, en même temps. C'est pas, on peut parler des rêves et des possibles, mais on pose plein de choses. Hein. Donc, c'est pas facile tous les jours, il faut aussi en vouloir pour faire une préorientation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50 établissements de préorientation en France. Et comme chacun sait, on a encore 100 départements. Ce qui fait que pour travailler un projet, très souvent, on est éventuellement obligé d'aller loin et c'est pas trop cohérent. Enfin, autant faire une formation très pointue, on peut changer un petit peu de département ou de région. Pour élaborer un projet professionnel, c'est pas simple, mais on va pas aller quand même à l'autre bout du pays. Donc, on s'est lancé au niveau de la FAGER avec le soutien de la CNSA et de l'assurance maladie dans une étude il y a 2 ans sur le fait qu'il faudrait développer la préorientation, qu'il y en ait plus. Donc il y avait vraiment un problème de développement quantitatif. Et en même temps, on se disait, la préorientation telle qu'elle existe aujourd'hui est intéressante, mais elle répond pas à tous les besoins de toutes les personnes qui ont besoin d'orientation. Elle est un petit peu séquencée de façon en une seule fois. Il faudrait peut-être qu'elle soit plus souple. Donc voilà, on a conduit une étude là-dessus. Et ça a abouti à un certain nombre de préconisations. Mais comme Philippe a piloté l'étude, je le laisse peut-être donner 2 ou 3 exemples des préconisations qui nous paraissent intéressantes.
Oui, peut-être plus sur l'aspect qualitatif. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, donc la préorientation, c'est un stage. Hein, on peut considérer que c'est un stage de 8 à 12 semaines, à un moment T d'un parcours d'une personne. On souhaiterait effectivement lui donner davantage une notion de parcours, plus inscrit dans le temps, puisque un projet, chaque situation est singulière. Pour certains, au bout de 6 semaines, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, il va falloir 12, 15 semaines avant d'élaborer le projet. Donc, on souhaiterait adapter, en tout cas, la durée et le contenu de la prise en charge aux situations singulières des personnes. Et donc, qu'elles puissent démarrer dès le moment que la MDPH donne son accord. En ce moment, par exemple, il peut y avoir des durées de 3, 6, voire même 12 mois avant l'entrée, entre le moment où la MDPH valide l'accord et l'entrée en préorientation.
Alors, que deviennent ces personnes ?
Ben, elles attendent. Elles attendent.
Elles attendent où ? Elles attendent chez elles.
Elles sont au chômage, c'est quoi leur situation ? Bah pour un grand
nombre. Elles sont en arrêt maladie.
Vous avez en arrêt maladie, au chômage, au RSA. En tout cas, elles sont en attente. Elles sont en attente.
Et donc c'est encore plus difficile après de remettre dans le bain.
Puisque le temps on rajoute à la difficulté. Donc on souhaiterait pouvoir démarrer très tôt. L'accompagnement, ça ne veut pas dire démarrer le stage collectif, parce que j'y reviendrai. Le stage collectif, c'est l'élément majeur de la préorientation. Mais ça veut dire démarrer l'accompagnement des personnes très très tôt pour régler les problématiques sociales. Souvent, il y en a un paquet, d'endettement, voilà. Donc ça, rien n'empêcherait à ce qu'on démarre l'accompagnement, à ce que le travailleur social puisse commencer à travailler avec la personne pour régler les problèmes sociaux qui existent.
Voire des difficultés psychologiques.
Tout à fait, au niveau médical également. C'est-à-dire aujourd'hui, l'évaluation médicale se fait à l'entrée en formation. Là, on pourrait la démarrer bien plus tôt, c'est-à-dire de manière à avoir une meilleure connaissance de la situation de la personne au moment où elle arrive dans la phase, on va dire, active de la préorientation. Donc ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, alors là, c'est plutôt en amont du stage. Aujourd'hui, notre accompagnement s'arrête au moment où la personne franchit la porte et a terminé. On fait un rapport à la MDPH, à partir, bien sûr, du projet de la personne, et notre travail s'arrête là. On fait un petit suivi statistique, mais point. Et donc, on souhaiterait, dans une logique de processus, que l'accompagnement puisse aller jusqu'à la mise en œuvre du projet, afin d'éviter, vous savez, le principe des patates chaudes, c'est-à-dire que la personne, ça y est, elle est bien dynamisée, elle est accompagnée, et d'un seul coup, il n'y a plus personne. Et puis, on va la retrouver quelques mois plus tard, parfois redémarrant. Donc, on voudrait éviter ces phases de rupture, c'est éviter les phases de rupture dans l'accompagnement. Voilà. Alors, on se dit, pourquoi vous le faites pas? Tout simplement, puisque vous le dites, parce qu'il faut des changements. Il nous faut des changements réglementaires. C'est-à-dire, aujourd'hui, le cadre réglementaire qui s'impose à nous ne permet pas de mettre en œuvre. Alors, tout est prêt, c'est validé même collectivement. On a un cadre de travail. Seulement, il faut faire bouger le cadre réglementaire, le décret ou une circulaire qui permettrait effectivement d'inscrire notre accompagnement sur un processus et non pas à un moment T. Pas forcément avec plus d'argent, là on est bien dans le même dispositif qui pourrait se faire à coût constant, mais ça veut dire modifier les logiques réglementaires qui s'imposent à nous. Je vais vous prendre un exemple. On est financé, l'établissement est financé dans le cadre de ce qu'on appelle un prix de journée, c'est-à-dire uniquement à la présence de la personne. Or, il faudrait qu'on soit davantage en dotation globale pour permettre justement de morceler l'accompagnement dans des périodes. À la limite, un accompagnement de 8 jours et après, on ne revoit pas la personne pendant 15 jours, 3 semaines et elle revient après. Ça, c'est pas possible avec le cadre réglementaire tel qu'il est actuellement. C'est pour cela qu'on a mené cette étude et qu'on a interpellé les pouvoirs publics en leur demandant de faire bouger notre cadre réglementaire.
Bon, on viendrait nous voir pour nous dire ce qu'il en est. Concrètement, je voudrais juste savoir, une entreprise qui a une personne chez elle qui est en situation de ne plus pouvoir assurer son emploi, est-ce qu'elle peut vous contacter ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est l'entreprise directement qui vous contacte ? Est-ce que c'est la personne qui vous contacte ? Est-ce que c'est la MDPH qui vous contacte ? Comment ça se passe ?
Les trois sont possibles. Les trois sont possibles, je crois, c'est celui qui a l'info au moment. Alors, c'est vrai que la Fagère peut faire le lien, c'est-à-dire quelqu'un entre... C'est vrai qu'en fonction de la localisation, on n'a pas forcément la réponse sur le territoire, mais là, interpeller la Fagère au niveau national est possible, tant pour l'entreprise que pour le médecin du travail, que pour la MDPH. Les départements où on est présent, où les établissements sont présents, généralement, on participe très activement au fonctionnement des MDPH et notamment auprès des équipes pluridisciplinaires. Donc, il y a une meilleure information qui circule. Par contre, il y a un certain nombre de départements où on n'est pas implanté et là, l'information circule un petit peu plus mal. Mais face à une question comme ça, il suffit de regarder, alors soit s'adresser à la Fagère, soit regarder dans l'annuaire un CRP, et là n'importe quel CRP est en capacité d'apporter une réponse à la question posée.
Alors effectivement, il y a deux messages qui sont importants de faire passer, c'est ne pas attendre le dernier moment pour l'inaptitude, c'est-à-dire essayer de voir si on peut pas faire des formations pour rester dans l'entreprise, parce que vous le dites effectivement, les managers sont tout à fait prêts à proposer des formations avec l'aide de la Fagère. Comment on peut vous contacter si on le souhaite, parce qu'effectivement vous avez formations.
On a fait un annuaire qu'on diffuse, mais plutôt au MDPH et au Cap Emploi, mais sinon sur le site de la Fagère. Donc www.fagerh.fr. Sur la page d'accueil du site de la Fagère, il y a une carte de France et on peut cliquer. Soit je cherche un centre dans telle région, soit je cherche une formation. Et là, vous serez redirigé vers les formations qui existent et vous aurez toutes les coordonnées des centres concernés.
Soit je ne peux plus travailler dans mon emploi actuel et je cherche à me reconvertir. Ça, c'est possible aussi.
Alors, ce qui est important pour rentrer dans nos établissements, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Donc,
on l'a dit, pour les personnes concernées, très souvent, elles n'étaient pas du monde du handicap, elles l'ignorent. Donc, il faut, dès que possible, prendre contact avec la MDPH et commencer un dossier, mettre en route un dossier de reconnaissance.
Et c'est long.
Et ça laisse le temps, pendant que le dossier est en route, de réfléchir, de regarder les pistes possibles et d'aller rencontrer éventuellement les CRP lors de journées portes ouvertes ou de regarder ce qui est possible de faire et d'aller à la MDPH avec des idées qui seront validées ou non avec l'équipe pluridisciplinaire.
Et de se poser des questions sur ce qu'on aime faire et là où on se sent bien, parce qu'effectivement, vous nous l'avez dit très très joliment, Philippe, il est tout à fait possible de continuer à s'épanouir professionnellement malgré une maladie, malgré un accident, malgré un handicap. On arrive au terme de notre émission. Je suis désolée, vous aviez un petit mot à rajouter. Deux secondes.
Il faut savoir que les formations et les préorientations sont gratuites parce qu'elles sont financées par l'assurance maladie et qu'elles sont rémunérées par le conseil régional maintenant sur la base de l'ancien salaire. Alors selon un système qu'il faut connaître, mais c'est gratuit et rémunéré, donc ça aide à se dire c'est possible.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir ce matin. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez pris l'émission en cours de route, ce qui n'est pas bien, mais c'est pas grave, vous pouvez toute la réécouter en podcast sur levivrefm.com. Rubrique La vie des entreprises. Bonne journée à tous à l'écoute de Vivre FM. Dans quelques minutes, les infos, puis la suite de nos programmes. À bientôt.
Vivre FM, podcast.